cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 28 mars 1996.
Vous avez dit qu'en assimilant un aliment, je deviens l'aliment. Si j'ai dit ça, c'est un lapsus. Ne doit-on pas dire plutôt que c'est l'aliment qui devient progressivement mon corps? Vous voyez, je ne dois pas dire non plus que c'est l'aliment qui devient moi. C'est mon corps. Alors, en définitive, le « je suis », pas le moi psychologique, mais le « je suis », profite de l'assimilation. En effet, si je mange une pomme, au réfectoire, c'est extraordinaire, tu vois, on serre une pomme, tous deviennent pommes à la fin du mois. Et je joue au bizarre avec les pommes. En effet, si je mange une pomme, elle devient mon sang, ma chair, etc. Ce n'est pas moi qui deviens la pomme, c'est bien évident. Je ne comprends pas très bien. Donc, si j'ai dit ça, vous comprenez bien que c'est pas ça que je pensais. Vous voyez la distance entre la parole et la pensée. Alors c'est bien de relever les... Parce qu'il peut toujours y en avoir qui prennent matériellement. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut suivre un cours intelligemment. Pas comme un perroquet qui répète, mais c'est très bien de corriger. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Alors nous étions... Étant donné l'importance de l'assimilation au niveau biologique, le vivant de vie biologique assimile. Et vous voyez, je vous avais dit que ce n'était pas l'aliment qui spécifiait l'assimilation et la digestion. Si on devenait aliment, ce serait l'aliment qui spécifierait. Donc, puisque l'aliment ne spécifie pas, et que c'est moi qui digère, qui mange, c'est donc cette puissance végétative de nutrition qui est la subjectivité transcendantale dans le domaine de la vie végétative. Et c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a un endroit où la subjectivité transcendantale du vivant est vraie. C'est pour la vie végétative. Dans la vie végétative, c'est vrai que c'est le sujet qui mange, qui assimile tout. Alors, transposez ça au plan de la vie intellectuelle. Vous voyez ? Vous avez la subjectivité transcendantale. Donc, l'erreur de Kant, c'est de confondre le mode intellectuel et le mode végétatif. Vous pouvez conclure ça, mais il ne faut jamais mettre ça dans une voie officielle. Il faut le garder pour soi. Il y a un petit carnet où on garde les perles. Et puis, parce qu'il ne faut pas donner les perles au pourceau, donc on garde les perles. Parce que ce sera la même chose pour la viande. Vous mangez du porc, là vous voyez ce que vous donnez. La pomme, c'est encore un peu digne, mais pour le reste, ouais, c'est un peu délicat. Alors, nous étions à la croissance. Il y a une puissance, une force vitale qui est liée à la nature. C'est-à-dire à l'âme uniquement l'âme. Et c'est l'âme unie au corps qui digère, qui se nourrit, qui assimile et qui, dans l'assimilation et par l'assimilation, permet au corps de grandir et d'atteindre la taille correspondant à ce plan, cette détermination de ma vie végétative, qui est une détermination qui relève de ma nature. Alors, il faut bien comprendre que la taille est différente. Et cette taille différente, elle provient de quoi? Est-ce qu'elle provient de l'âme qui est différente? Il y a une grande, une âme pour les grands, une âme pour les petits, une âme pour les moyens. Trois séries différentes. Comme il y a une âme pour un homme, une âme pour une femme. Est-ce que c'est différent? Cette question, il faut tout le temps qu'elle soit là. En découvrant l'âme, vous découvrez l'âme comme principe de vie, de notre vie humaine. Dans la vie végétative, vous découvrez qu'il y a cette âme humaine qui est source de vie végétative. Comment se fait-il dans la vie végétative que justement on voit des rythmes différents? Même le rythme de la digestion est différent pour chacun. Nous n'avons pas deux estomacs comme nos chères vaches, mais nous avons un estomac qui diffère différemment. Et selon la vie qu'on mène, c'est très curieux, il y a un développement différent qui se fait. Ça, c'est sûr. Et par le point de vue de l'individuation, et par le point de vue du patrimoine génétique, le rythme de la vie végétative est différent pour chaque individu. Puisqu'il y a un chiffre biologique vrai pour chacun. Un rythme législatif, il y a des lois communes. Et puis, grâce à Dieu, il y a des exceptions. Ces lois s'appliquent la plupart du temps, mais il y a des exceptions. Il y a du plus et du moins. Et quand vous êtes à l'extrémité d'un plus ou à l'extrémité d'un moins, c'est un cas exceptionnel. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme pour les autres. Ce qui légitime les régimes, quand on vit en vie communautaire, il y a toujours un frère qui a un régime. Il faut bien, pour que la loi demeure. Il y a toujours un ou l'autre. Et c'est vrai que la vie monastique ou la vie religieuse ou la vie intellectuelle fait que l'estomac en prend quelquefois des coups très durs. C'est bien évident. Votre vie que vous menez n'est pas naturelle selon les exigences de votre individuation. Vous faites subir à votre vie végétative quelquefois des tourments un peu trop raides. Ça ne se voit pas tout de suite, parce qu'on la domine. Mais au bout d'un certain temps, on s'en aperçoit. Parce qu'on n'a pas été assez conscient, assez prudent des qualités et des limites de notre corps. On met du temps avant de connaître un peu son corps et de connaître ce qu'on peut faire. C'était le vieux père Mandané qui était un bon bourguignon, un excellent historien du Moyen-Âge, qui disait toujours, il y a une expérience que nous devons tous faire, c'est des limites de nos forces. au point de vue de notre vie végétative. Les limites du sommeil, les limites au point de vue des capacités que nous avons de travail manuel, de marche, de travail intellectuel. On doit petit à petit, et ça fait partie de la prudence, vous voyez, c'est là, la prudence n'a pas un pouvoir absolu sur notre vie végétative. Notre estomac s'impose à notre prudence. Vous avez beau dire, mon petit, tu vas marcher, tu vas marcher. Au bout d'un certain temps, il ne marche plus. On peut aller jusqu'à un certain point. Et puis, on sait qu'il faut être attentif à ne pas dépasser la situation limite. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant de voir ça. De voir que, de fait, la vie végétative est déterminée. Et individuellement déterminée. Pas spécifiquement. Uniquement. Elle est déterminée spécifiquement. Mais la détermination ultime vient de l'individu. Et ceci, ça se voit très fort dans la croissance. Et aussi dans la vie végétative. On ne mange pas tous la même quantité. Vous voyez, ce qui était faux avant, j'ai encore connu ce régime-là, ce qui était très faux, c'est que pendant le carême, on mesurait au petit déjeuner le pain qu'on pouvait manger. Alors, ceux qui avaient des coffres moyens, ça allait très bien. Mais ceux qui avaient de grands coffres, alors ils subissaient des carèmes. Parce que on donnait à chacun la même chose. C'était très faux. Vous voyez, c'était l'influence de Descartes, ça. Il faisait qu'il fallait que tout le monde ait le même. C'était la même chose, vous voyez, que pour la grandeur. Vous connaissez cette histoire de Chartreux. Quand on visite les Chartreuses, c'est arrivé authentique, c'est authentique, ça c'est pas de la blague. Alors un type qui dit, mais qu'on monte le lit. Et quand il dit, alors c'était un Américain qui était très grand, ça, qui regardait ça. Alors il dit, mais si on est grand comme je suis, qu'est-ce qu'on fait? Ce lit est trop petit. Alors le père qui faisait la visite dit, oh c'est rien du tout, on vous coupe les pieds, et puis c'est tout. Alors il a blémi, ça aussi. Et accepter d'être chartreux, mais pas d'avoir les pieds coupés. Mais le point de vue du rythme vital est individuel. Et est en même temps spécifique. C'est très très curieux, ça. Le lien entre les deux, entre la spécification de l'âme et l'individuation. Alors, la spécification de l'âme dans le point de vue végétatif. Et premier, mais il y a une marge à cause de l'individuation. Et l'individuation, c'est là où on voit le patrimoine génétique, c'est là où on voit l'atavisme. C'est dans le point de vue individuel que ça joue. C'est pas l'âme. L'âme est spécifiquement la même pour nous tous. Mais elle est créée dans le corps. Et donc tout de suite, elle a une note individuelle qui est différente, voulue par Dieu, c'est sûr. Et dans la croissance, dans la vie végétative de la nutrition, ça se voit tout de suite. Et dans la croissance, ça se manifeste. Il y en a un qui grandit énormément, et l'autre qui reste à une taille ordinaire. Et l'autre qui... Alors évidemment, pour les petits pygmées, ça, c'est encore plus marqué. Mais les pygmées ont la même âme que nous, hein. C'est sûr. Il n'y a pas une âme pygmée, mais dans le ciel. Non, non. Une âme spéciale. Il n'y a pas d'âme particulière, mais il y a un atavisme. Mais alors, c'est là où... C'est très délicat et très... émotions qui sont si fortes au niveau individuel et qui marquent l'exercice de notre vie végétative selon des rythmes très particuliers, très différents les uns des autres. C'est pour ça qu'on ne peut jamais copier quelqu'un au point de vue du rythme de la vie individuelle, tant au point de vue du sommeil qu'au point de vue de la nourriture, comme au point de vue de la croissance. Ceci relève d'un patrimoine très lointain, très lointain. À quel moment y a-t-il eu cette diversion? Ça s'est fait lentement. Vous voyez, c'est pas l'évolution. L'évolution au sens fort, c'est lorsqu'il y a un changement au niveau spécifique. Là, c'est un changement uniquement au niveau individuel qu'on doit accepter, qu'on n'explique pas l'individuation. C'est-à-dire qu'on ne l'explique pas, on le constate. On constate cette souplesse extraordinaire de l'espèce humaine, mais qu'on retrouve chez tous les animaux. La diversité dans la race des chiens, des chevaux, une diversité étonnante. De l'extérieur, on dira chien, mais de l'intérieur, on dit tout de suite la différence spécifique et individuelle de telle race. C'est là où on voit la complexité de l'être humain. Et on voit combien la croissance est un domaine extrêmement curieux. Cette croissance, elle est depuis le point de départ, dès le premier moment de la conception. Vous assistez à une croissance qui va très loin dans la phase première de l'embryon, du fœtus, jusqu'à la naissance. C'est une croissance qui implique une diversité d'organes. Alors là, c'est très intéressant. Ceux qui ont fait ces études biologiques, regardez cette première croissance en remarquant les différents moments où les organes principaux apparaissent et où la complexité du corps humain se définit. Et on devrait mettre en parallèle la croissance des animaux les plus proches de l'homme. Ça, c'est une chose qui serait très intéressante. Ça s'est fait sûrement. Mais il faut le faire en plan philosophique. C'est-à-dire en comprenant que toutes ces données scientifiques sont extrêmement importantes au niveau causalité matérielle. Ils ne peuvent pas distinguer entre la disposition et la spécification. Et ça, je crois que c'est très important à distinguer dans cette question de la croissance, ce qui dispose et ce qui détermine. La croissance d'un être humain quand il est arrivé à la, quand il est né, jusqu'au moment où la croissance s'arrête. Il y a deux grands moments. Et puis après, on vit biologique. C'est pour que le spirituel puisse se développer plus. Alors, la croissance spirituelle, c'est la croissance de nos connaissances sensibles, de notre affectivité et de notre esprit. Et c'est, je crois, cela qui est intéressant à essayer de comprendre. Alors, au point de vue de la vie végétative, puisque c'est ça qu'on regarde, je ne regarde que cette croissance dans l'ordre de la taille humaine, du développement des organes. Et je vois que c'est quelque chose qui est tout à fait individuel pour chacun. Il y a eu des arrêts de croissance, des maladies, des accidents, qui ont leurs répercussions. Ce qui est ça aussi extraordinaire, de voir combien il y a des répercussions d'accidents qui sont arrivés à tel moment, au moment de la croissance, et qui ont empêché certains développements. Et comment l'être humain a redécouvert un autre équilibre devant ses frustrations, devant ses arrêts. Ce qui montre la vitalité, voyez, de l'âme végétative, qui fait que, à cause de certains accidents, certaines maladies, c'est pas l'âme qui est malade, c'est le corps qui est malade, c'est sûr. L'accident regarde toujours le corps, mais il y a une répercussion sur l'âme. Et comment, surtout quand on est jeune, certains accidents qui ont eu lieu ont permis, ont arrêté certaines croissances et ont permis d'autres croissances. C'est extraordinaire de voir ça. Parce que voilà l'intelligence qui préside à ce développement. Parce que le développement de la vie végétative, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir dessus. Vous voudriez grandir plus, vous ne grandirez pas. Alors évidemment, aujourd'hui, on essaie de suppléer à la nature. Mais je crois que c'est toujours un peu dangereux. On le fait quand même, tu vois. Parce que je crois qu'il y a une harmonie entre le corps et l'âme. Mais il peut se faire qu'en fonction de certaines maladies, ou en certaines fonctions d'accidents, on doit suppléer à la nature. Alors on doit apporter une aide. C'est comme ça que c'est légitime. Et dans quelle mesure a-t-on le droit d'intervenir dans cette chirurgie particulière à l'égard de l'embryon ? C'est toujours très délicat. Et c'est très intéressant et important pour nous de connaître des amis qui sont médecins et chirurgiens spécialisés pour les embryons, de voir combien c'est délicat et jusqu'où c'est permis. Changer, faire des mutations qui sont toujours très délicates, puisque comme les organes ne sont pas encore entièrement différenciés ou spécifiés, on risque toujours, en voulant modifier certaines choses, qu'il y a une répercussion sur d'autres choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas. Alors c'est tout ce terrain d'indétermination de la croissance. Parce qu'il y a un terrain d'indétermination, c'est très déterminé, et en même temps, il y a une indétermination de la cause matérielle. La cause matérielle est toujours source de hasard. C'est-à-dire de quelque chose que je ne peux pas prévoir. Puisque pour chaque individu, c'est particulier. Je ne veux pas dire d'avance, vous serez exactement comme votre grand-père. Après coup, on peut dire, tiens, c'est curieux, il y a eu des choses semblables. Et c'est vrai, dans les organes comme l'œil, l'ouïe, si on appartient à une famille où tous sont sourds à partir de telle date, ça arrive. ut in pluribus. Ou bien ceux qui deviennent aveugles avant un tel date. C'est, l'atavisme est une chose qui montre combien la croissance est individuelle, combien elle est déterminée par l'espèce et combien elle est familiale. C'est très curieux. Il faut distinguer les trois. Chaque individu est unique, chaque individu appartient à une famille et la famille appartient à l'espèce. Et dans la croissance, les trois facteurs interviennent dans l'ordre de la quantité. Et chacun d'entre nous, on pourrait faire ça, on pourrait voir le parallèle. Et voyez, dans la même famille, comme on voit des diversités, c'est pour ça que la famille intervient, mais l'individu prime toujours au-dessus. Un facteur. Parce que le patrimoine génétique se diversifie selon chaque individu. Donc, le phénomène de la croissance est très intéressant. Et il faut toujours s'intéresser à ça, point de vue philosophique. Et écouter certaines choses quand on peut avoir des amis médecins qui vous racontent un peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté. Ça doit nous intéresser, puisque ça intéresse l'espèce humaine, ça intéresse les individus. Dans cette croissance, vous voyez, il y a la croissance biologique, et puis je dis, il y a la croissance morale, personnelle. La croissance biologique est avant tout individuelle. Et la croissance intérieure est avant tout personnelle. Alors, c'est là où il faudrait regarder de très près ce que disent les psychologues là-dessus. Et il y aurait un travail intéressant à faire de voir que les psychologues peuvent donner des moments de la croissance. Mais les donne au niveau psychologique. Ah, c'est pas suffisant. C'est au niveau moral qu'on doit les donner. Parce que l'homme n'est homme qu'au niveau moral. Un homme qui serait uniquement construit psychologiquement, ce serait assez affolant. Parce qu'il n'a pas de finalité. Or, est-ce que ce n'est pas par rapport à la finalité qu'on doit regarder la croissance ? Puisque la croissance est un devenir, et tout devenir est spécifié par son terme. C'est donc le terme qui spécifie le devenir et qui fait comprendre le devenir humain. Alors vous pouvez distinguer un devenir biologique, un devenir psychologique et un devenir humain. Le devenir psychologique est entre les deux. Il dépend du point de vue biologique et il dépend du point de vue humain. Il est entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il regarde exactement ? Quand un psychologue vous donne les âges de croissance, il faudrait que immédiatement vous corrigiez par le point de vue biologique et par le point de vue philosophique, moral. Et dans le point de vue moral, il y a le dépassement aussi au point de vue intellectuel. La recherche de la vérité. Il est bien évident qu'il y a des niveaux dans la recherche de la vérité. Des niveaux, vous voyez, des niveaux de croissance. À partir de quel moment un être humain a-t-il vraiment conscience de la recherche de la vérité ? Et que cette recherche de la vérité donne à sa vie un certain sens. Ça peut être très rapide. Et ça peut être beaucoup moins rapide pour certains. Mais là encore, vous ne pouvez pas donner des lois absolues. Parce que déjà, au point de vue biologique, il y a une très grande diversité. Et c'est intéressant, au moins, de comparer livre quelque chose d'intéressant. Mais attention à ne pas user de cela univoquement et à l'appliquer automatiquement. Ce serait très fou. Il faut avoir le respect de chacun. Et alors, le danger de tout ça, c'est que ça nous met des a priori en tête. Et je ne sais pas si ces a priori aident beaucoup. Est-ce qu'il ne faut pas mieux regarder le terme de la formation au point de vue de la personne humaine? Parce qu'au fond, toute croissance est en vue de la personne humaine. Et toute croissance inachevée fait un manque de maturité. Or, à quel moment on peut arrêter la croissance? Au point de vue biologique, c'est net. Au point de vue psychologique, c'est difficile. Parce que je crois qu'on ne peut pas mettre d'âge. Mais on peut, en gros, situer des périodes où la couleur varie et mettre des noms à cette couleur. Oui, tiens, c'est l'âge de la sagesse. Oui. 80 ans, c'est l'âge de la sagesse. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont 80 ans et qui ne sont pas arrivées à l'âge de la sagesse. C'est bien évident. Donc, c'est pas biologique, ça. C'est pas psychologique. Ça ne peut être que philosophique. Pour l'âge de la sagesse, c'est celui qui a atteint sa vraie fin ultime. Donc, il y a une connaissance de Dieu et du Créateur et une connaissance chrétienne. Ça, autrement, il n'y a pas de vraie sagesse. Si vous n'avez pas atteint l'existence de Dieu et le point de vue de la création, il n'y a pas de vraie sagesse. Il y a une croissance qui s'est faite, une croissance au niveau biologique, celle-là, très bien, au niveau éthique, au niveau de l'amour d'amitié, au niveau de la prudence. Alors vous pouvez là mesurer une certaine croissance dans l'acquisition des vertus morales, c'est sûr, et de la prudence surtout. Il y a ensuite le problème très important, parallèlement à la croissance, donc la vieillesse. Ça fait partie de ce développement biologique. Donc là, je ne dis pas la chute des feuilles, parce qu'alors à ce moment-là, ce serait uniquement les cheveux qui tombent. Et c'est pas ça qui marque la vieillesse. Pas du tout. Les biologistes vous donneront des renseignements matériels très intéressants. On sait très bien que certaines maladies vous font tomber tous vos cheveux, vous donner des crânes. C'est pas drôle. Surtout pour les femmes, sauf les religieuses. Vis-à-vis des autres, parce que c'est très bien caché, alors c'est parfait. Mais autrement, alors c'est le siècle des perruques. On voit très bien que la décroissance organique, la première, entraîne des conséquences psychologiques, surtout sur la mémoire. Oui, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit combien la mémoire dépend du point de vue biologique. Et c'est normal. C'est peut-être elle qui dépend le plus du point de vue biologique. C'est la mémoire. Les souvenirs, la mémoire, tout ce qui s'est passé. ensuite comme un décroissance. La corruptibilité va atteindre les sens externes par les organes. Les sens externes n'ont plus la même acuité, la même pénétration, ce qui permet aussi à l'intelligence de s'en servir d'une nouvelle manière. Parce que l'intelligence, elle ne subit pas directement la corruptibilité du corps. Elle la subit cependant indirectement par les images qui sont moins fortes. Alors là aussi, elles sont moins fortes, donc ça permet à l'abstraction de se faire plus facilement. Mais aussi, l'inconvénient, c'est qu'il y a moins de connaissance du singulier comme tel, dans son originalité. Il y a des facteurs comme cela qu'on peut très bien noter et qui sont intéressants parce que j'allais dire que l'aspect de la décroissance, des chutes successives vers la corruptibilité, confirme négativement ce qu'on a pu dire positivement en analysant la complexité de notre psychisme. Le psychisme du vieillard n'est pas le même que le psychisme de l'adolescent, de celui qui grandit. Alors ça, c'est intéressant à voir. Mais voyez, quand je dis le psychisme, c'est-à-dire tout ce qui, en nous, fait partie de notre vie affective. Le psychisme, c'est notre vie affective. Notre vie affective qui relève du sens commun et qui relève surtout des passions et donc de l'imagination. L'imagination, pour un vieillard, est sûrement beaucoup moins fertile que l'imagination d'un jeune. Chez un jeune, surtout aujourd'hui, l'imagination est très forte. C'est le caractère, je vous l'ai déjà dit, de notre monde d'aujourd'hui, de notre culture d'aujourd'hui. Et c'est du reste pour ça, vous voyez, qu'au fond, il y a la destruction des vieillards. Dans les hôpitaux, c'est systématique. À partir d'un certain âge, on ne vous soigne plus. On attend que ça se dégrade. On ne le dit pas ouvertement, mais on le sait. Mais ça, c'est très net. Nous sommes devant une culture d'efficacité qui, par le fait même, ne s'intéresse plus aux vieillards. Parce que, au point de vue de l'efficacité, les vieillards, il y a un rendement moindre. Or, ils continuent de manger. Alors, puisqu'ils continuent de manger, ils mangent le patrimoine. C'est forcé. Et comme l'efficacité est moindre, il faut un équilibre particulier. Et une civilisation, une culture qui ne voit que l'efficacité supprime les vieillards et tend à supprimer tous ceux qui sont en retard au point de vue, ce qu'on appelle en retard, au point de vue culture, scientifique, technique, au point de vue efficacité. Mais ça, c'est le signe très net d'une culture d'efficacité qui ne s'intéresse plus à ça. Donc, il y a un phénomène au point de vue philosophie du vivant qui est très important aujourd'hui. De regarder ça attentivement, parce que c'est important de comprendre ça au point de vue de la culture. Les cultures anciennes aimaient les vieillards. La culture moderne aime l'homme dans son rendement, dans son efficacité. Vous savez que pour pour les intuitions mathématiques, on a dit, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, jusqu'à 40 ans, on a des intuitions mathématiques fulgurantes. Si on est un mètre 2, à partir de 40 ans, ça diminue. Mais c'est très curieux, parce que les intuitions, c'est le point de vue imaginatif. Alors, ça augmente jusqu'à 45 ans. À partir de 45 ans, ça diminue. Et il y a une répercussion sur ce point de vue-là. Alors, si on est intelligent, on emmagasine énormément jusqu'à 45 ans. Après, on a un gros capital qu'on développe. Plus besoin d'intuition pour développer son capital. Les intuitions, ça nous fait avancer, faire quelque chose de nouveau. Tandis que développer ce qu'on a, ça, c'est autre chose. Pas du tout la même manière de vivre. Vous voyez, c'est là où on pourrait établir, en regardant les différentes manières de concevoir la croissance de l'homme, voir quand même certaines analogies dans ces croissances. Donc il y a un problème.